À 8h20, heure de Paris, votre invité, Frédéric Rivière, vous recevez ce matin le président de la Commission des Affaires Économiques à l'Assemblée, Roland Lescure.
Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Que retiendrez-vous de Bernard Tapie?
D'abord, c'est un personnage de roman, ça a été dit depuis 24 heures, mais c'est vrai, avec ses faces lumineuses, ses faces sombres, une énergie débordante. Moi, je retiens deux choses surtout, c'est que, un, il a été un mentor différent des mentors habituels. Pour beaucoup de jeunes, moi je connais des trentenaires, des quarantenaires qui se sont reconnus en lui. Il était assez différent des hommes d'affaires, des hommes politiques, des hommes publics habituels. Puis je retiens aussi et surtout qu'avec Bernard Tapie, il y avait une vie avant la politique, il y avait une vie après, et je pense que ce sera mon cas aussi.
Et son courage aussi peut-être dans la lutte contre la maladie.
Oui, bien sûr, qui reflétait avant tout son énergie débordante, sa capacité à aller de l'avant, et puis aussi, je dirais, sa simplicité. Je pense que c'était quelqu'un d'assez simple au fond.
La majorité présidentielle a tenu ce week-end à Avignon son campus de rentrée. Est-ce que vous pensez que votre mouvement a ou va réussir sa mue vers un véritable parti politique?
On verra. Évidemment, et ça s'est vu ce week-end d'ailleurs, ce mouvement est extrêmement identifié à la personnalité, à la personne du président de la République, d'Emmanuel Macron. Et je vais vous dire que la mue politique, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, c'est la réélection d'Emmanuel Macron, qui j'espère sera candidat à la présidence de la République, qui nous a occupé beaucoup ce week-end. Il y avait une excellente ambiance, les gens étaient heureux de se voir. C'est aussi le premier meeting de campagne après la Covid, ou presque après la Covid, donc les gens étaient contents de se retrouver. Il y avait une énergie très forte, il y avait des cadres, mais aussi beaucoup de militants. Je pense qu'il y a peu de mouvements politiques aujourd'hui qui peut réunir 5000 personnes comme ça, tout un week-end, en Avignon, au début du mois d'octobre. Franchement, on rentre de ce week-end plutôt mobilisé, plein d'énergie, pour la mue politique. On verra après.
Ouais, la grande affaire du moment, c'est la réalisation d'une maison commune qui rassemblerait toutes les formations qui soutiennent Emmanuel Macron. Pour l'instant, on a l'impression que les contours de ce projet, de cette maison commune, restent tout de même assez flous.
Oui, c'est pas la grande affaire du moment. Moi, je dirais, c'est la petite affaire du moment.
Question, quand même.
Il en a été beaucoup moins question, d'ailleurs, qu'aux dernières journées de rentrée politique. On y a passé un peu de temps, effectivement. L'objectif majeur, je le disais, c'est la réélection du président, qui j'espère sera candidat, et c'est le rassemblement derrière lui. Et de ce point de vue-là, ce message d'unité, de rassemblement et de dynamique de campagne derrière le président, il a été très clair et personne ne le remet évidemment en question. Il suffit de regarder des deux côtés de l'échiquier politique pour voir qu'aujourd'hui, l'unité derrière un homme ou une femme, on est à peu près les seuls à l'avoir. Qu'il faille organiser la majorité, notamment, mais on n'en est pas là en cas de réélection. Et en cas d'élection législative gagnante, ce qu'on espère aussi. C'est évident. Mais d'ici là, l'enjeu majeur, c'est d'avoir des idées en commun, de mettre ensemble une dynamique de campagne très forte et de faire réélire le président de la République. Le reste, j'allais dire, c'est de la plomberie partisane qui, moi, personnellement, en tout cas, m'intéresse assez peu.
On commence à entendre chez vous un slogan, c'est 50+, hein, donc 50+ pour Emmanuel Macron. Pourquoi voulez-vous tant qu'Emmanuel Macron soit de nouveau président pour les 5 prochaines années, puisque vous ne savez pas ce qu'il pourrait proposer aux Français pour ce nouveau mandat?
D'abord, je lui fais confiance pour, dans les mois qui viennent, s'il est candidat, pour nous trouver quelques belles idées et surtout une vision et une incarnation de ce que doit être la France d'après-crise. Parce que ça va être ça la question qui va se faire. Ensuite, parce que on ne gagne pas avec un bilan, mais quand on n'en a pas, on peut perdre. Et un bilan, il en a et il est excellent. Je pense que à la fois sa stature d'homme d'État, sa capacité à décider, sa capacité à diriger, sa capacité aussi à écouter et à se réinventer quand il a fait face, et il en a eu son lot, à des crises particulières. Tout ça en fond, qu'il a, à mon avis, toutes les qualités pour continuer. Vous l'avez dit, 50+, en fait on sort d'un quinquennat dans lequel je pense on a fait beaucoup de choses pour les Françaises et les Français, face à des crises, mais aussi dans une capacité à transformer la France un peu en profondeur. Pour moi le deuxième mandat, ça doit être un mandat au carré, c'est-à-dire qu'il doit être encore plus transformateur pour amener la France pleinement dans le 21e siècle avec ses défis écologiques, sociaux, territoriaux dont on doit continuer à se saisir.
Est-ce que vous saurez éviter que Éric Zemmour n'impose les grands thèmes de la campagne présidentielle?
En tout cas, ça a été en grande partie là ce week-end. Il faut reconnaître qu'on a parlé de lui parce que il a fait irruption dans la campagne.
Dans un sondage paru ce week-end.
Dans les sondages, et donc il ne faut pas nier son existence. Évidemment, son apparition dans le paysage politique reflète aussi des inquiétudes réelles, des peurs de la part des Français et des Français auxquelles on doit répondre. On y répondra, comme toujours d'ailleurs, c'est notre ADN, par l'optimisme, par la marche en avant, par les idées, par notre capacité à nous projeter ensemble vers une France dont on espère qu'elle va sortir plutôt vainqueur de cette crise plutôt que défaite. Regarder en avant plutôt que regarder en arrière, c'est notre ADN depuis toujours, on va continuer à le faire.
Dans un livre que vous venez de publier, Roland Lescure, aux éditions de l'Aube, intitulé « Nos totems et nos tabous, dépassons-les », vous voulez faire sauter un certain nombre de verrous, combattre des idées reçues, parmi lesquelles, et c'est même d'ailleurs votre premier sujet, le gaullisme. Il est grand temps, dites-vous, de défendre la différence entre la reconnaissance d'un personnage historique majeur et la croyance dans l'éternelle vérité de sa politique. Je pourrais presque vous dire que c'est culotté de dire ça, parce qu'aujourd'hui, ne pas être gaulliste, c'est un peu iconoclaste, non ?
Moi, quand j'entends Jordan Bardella, Manuel Valls, Fabien Roussel, voire même Jean-Luc Mélenchon être gaulliste, je me dis qu'effectivement, peut-être ne pas l'être est la vraie modernité. Un exemple. Le nez du Concorde, il a été dessiné dans le 7e arrondissement dans les années 50. Aujourd'hui, la fusée du futur, SpaceX, elle est dessinée par un entrepreneur dans un garage quelque part dans la Silicon Valley. Ça n'empêche pas d'être financé par la NASA. L'État, la puissance publique, a un rôle dans le financement de l'innovation du futur. Mais on doit repenser la politique industrielle, évidemment surtout et beaucoup au niveau européen, la politique d'innovation, et effectivement se référer encore et toujours à cette certaine idée de la France, comme on dit souvent, que représente le gaullisme, je pense que c'est anachronisme. J'ai une stagiaire de troisième qui a passé une semaine au bureau. On a réalisé au bout de 4 jours qu'elle ne savait pas qui était le général de Gaulle. Peut-être que son professeur d'histoire a quelques soucis à se faire, mais quand même, c'est révélateur du fait qu'on est aujourd'hui face à une génération qui va nous aider à reconstruire la France au sortir de cette guerre et pour qui le général de Gaulle n'est pas l'horizon indépassable.
Je voudrais en parler à Jean-Michel Blanquer tout de même en ce qui concerne votre stagiaire. Sans doute quelque chose qui ne va pas en effet. Vous êtes si peu gaulliste que vous proposez au chapitre Europe de votre livre que le siège de membre permanent du Conseil de sécurité que la France détient à l'ONU devienne à l'horizon 2030 un siège européen. Est-ce que ça n'est pas pourtant l'une des dernières cartes qui maintient la France dans une position de puissance mondiale importante ?
Alors c'est un horizon d'abord, et puis c'est là...
C'est un horizon proche, hein, 2030 c'est dans 9 ans.
Hein. C'est plutôt au-delà de 2030, mais peu importe d'ailleurs. L'essentiel c'est de comprendre que on souhaite tous que la défense européenne se mettent progressivement en place, parce qu'on sait bien, on l'a vu notamment dans l'océan Pacifique récemment, que l'Europe sera plus forte ensemble et que la France, malgré tous ses atouts, peut parfois apparaître un peu faible face à des grands blocs, États-Unis, Chine notamment. Mais pour mettre en place une défense commune, il va falloir, comme on l'a fait sur l'euro en son temps, être capable de dire, nous on est prêts à mettre des choses sur la table. Ce sera peut-être pas le siège au Conseil de sécurité, ce sera peut-être autre chose, mais les arguments de ceux qui m'attaquent sur cette idée aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui étaient contre l'euro il y a 30 ans. La souveraineté de la France, le fait qu'on va se faire dévorer par les Allemands, tout ça, je pense qu'il est temps, là encore, de se projeter dans le 21e siècle.
Merci Roland Lescure.
Merci à vous.
Bonne journée.
Le président de la Commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, Roland Lescure, également porte-parole de La République En Marche avec Frédéric Rivière. Vous retrouvez cet entretien sur RFI.fr. Dans une